enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ouvrons nos Bibles dans l'épître de Jude, les 3 versets 5, 6 et 7. Le problème est de savoir où vais-je passer mon éternité. La Bible affirme qu'il y a un lieu où des gens ou des anges seront enchaînés dans les ténèbres éternelles, les ténèbres des souffrances éternelles. La Bible nous dit que les incrédules, les rebelles, ceux qui n'ont pas cru, et j'insiste sur le fait que la puissance de l'incrédulité n'est pas simplement partagée aux humains. Cette puissance est également partagée dans le ciel, où les anges ont eu la possibilité de croire ou de ne pas croire. Nous avons aussi cette possibilité, c'est pour comprendre que Dieu nous donne le choix d'un enjeu éternel. Acceptons le sang de Jésus, acceptons le sang de l'agneau, acceptons la délivrance là où nous sommes, tel que nous sommes, Dieu nous prend. Dieu n'a pas fait sortir les Hébreux pour les nettoyer de tout leur traumatisme. Il les a sauvés dans leur traumatisme. Enchaînés éternellement par les ténèbres, virgule. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Oh, si les hommes pouvaient comprendre l'infinie sagesse et le sérieux si important de la parole de Dieu. Avant nous, il y en a eu d'autres. Avant les humains, il y a eu les anges qui ont été confrontés à une puissance d'incrédulité. Ils ont perdu leur dignité, nous dit la Bible. Un tiers des anges a perdu sa dignité. Dès l'instant où l'homme refuse la main que Dieu lui tend, il perd sa dignité. Dès l'instant où les anges ont refusé de demeurer, de rester avec Dieu, ils ont perdu leur dignité. C'est pourquoi un homme, une femme qui n'a pas Dieu dans son cœur ou qui ne recherche pas son Créateur, n'a plus de dignité aux yeux des anges, aux yeux des choses célestes. La dignité est perdue dans le cœur et ensuite elle est perdue dans la vie courante. Celui qui n'a pas le Seigneur Jésus avec lui va perdre sa dignité tôt ou tard. La dignité des enfants de Dieu. Est-ce que nous comprenons que Dieu nous a donné une dignité, c'est-à-dire qu'il a mis sur nous une possibilité d'un respect de la part des païens, d'un respect de la part des démons. La dignité, c'est lorsque l'on vous voit et qu'on l'on connaît que quelqu'un de plus fort est avec vous. Les chrétiens qui sont vaincus par Satan sont des chrétiens qui ont commencé à perdre leur dignité. La dignité, c'est la propreté, c'est la sainteté, c'est l'ordre, c'est l'équilibre. La dignité, c'est ce qui fait qu'un homme, une femme, peut marcher paisiblement sans avoir à subir les sarcasmes des hommes, sans avoir à subir la difficulté de la vie. Nous marchons au milieu des difficultés, mais les difficultés ne doivent pas dominer sur nous. Je suis digne en Dieu parce que je marche au milieu de la souffrance, mais je ne me plains pas, mais je rends grâce à Dieu. Ça, c'est la dignité. Je marche au milieu des serpents et des scorpions, mais je ne pleure pas devant Satan, je ne vais pas me plaindre. Je reste fidèle comme Job est resté fidèle en parole et en acte pour garder sa dignité. Job était couvert d'ulcères. Mais il était le plus digne des hommes à cette époque. Ne permettez pas que l'on vous juge à cause de vos souffrances. Ne permettez pas que l'on bafoue la valeur de votre vie à cause de vos luttes. La dignité n'est pas celle qui est rattachée au combat. La dignité est celle qui identifie quelqu'un qui demeure dans la confiance de son Dieu. C'est pourquoi il nous est parlé d'incrédules. Les incrédules ont perdu toute dignité. Au moment où vous ne croyez plus, vous perdez votre dignité. Au moment où vous ne croyez plus, le diable déchire votre dignité. La dignité n'est pas dans le statut d'un homme. La dignité n'est pas dans sa tenue vestimentaire. La dignité est d'abord dans sa confiance en son Créateur, dans sa foi. Il garde la foi, malgré vents et marées. Il garde la foi. Et quand on le voit dans un triste état, ce qui parle plus fort, ce n'est pas son état, c'est sa foi. Nul ne peut vous retirer votre dignité. On perd sa dignité, mais on ne nous vole pas notre dignité. Les hommes disent qu'on peut nous voler notre dignité, mais la Bible dit qu'on ne peut pas te voler ta dignité. Tu peux perdre de toi-même et abandonner la dignité que Dieu t'a donnée. La dignité, c'est de garder la foi. Ils ont été jetés au milieu des arènes, au milieu des fauves, au milieu de la souffrance. Les animaux venaient les déchirer, mais les chrétiens restaient dignes. J'ai foi que cette vie n'est pas la terminaison de toute chose. Il y a une autre vie qui m'attend. Si bien que le grand monarque de l'époque ne pouvait plus supporter de voir la joie et le sourire sur les visages déchirés des chrétiens. Il ne voyait plus ces visages déchirés. Il voyait la dignité d'un homme et d'une femme qui est mort avec la foi et l'espérance. Nous voulons continuer dans l'espérance. Si la souffrance nous pèse, nous lutterons jusqu'au bout. Les anges ont perdu leur dignité. Quand nous gardons notre dignité, le cœur est parfaitement en paix. Et ce que même les autres peuvent dire tombe à terre. Je vais vous dire une bonne chose. Il n'y a que les paroles de Dieu qui montent au ciel. Les paroles des hommes, elles retournent à la poussière. Si la parole de Dieu est dans votre bouche, elle montera au ciel. La dignité. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné. Oh Jésus, Jésus, quel drame! Quel drame épouvantable! Ils ont abandonné leur propre demeure. Ils ont laissé la maison. Ils ont quitté la maison. Plus de demeure, plus d'endroit pour se réfugier. Allant de droite et gauche dans les ténèbres, courant dans la nuit des ténèbres, ils n'ont plus un seul endroit où se reposer. Perdant leur dignité, ils ont abandonné leur demeure. C'est un abandon volontaire. Dieu ne te prendra jamais l'église. Le diable ne pourra jamais prendre ton église. C'est toi qui as le pouvoir de l'abandonner ou pas. C'est toi qui as le pouvoir d'abandonner la maison de papa. Les anges ont abandonné leur maison. Ils sont partis errants, n'ayant plus d'endroit de repos. Car c'est précisément là la véritable angoisse. C'est de ne plus avoir un endroit de repos, un endroit pour demeurer. La Bible insiste. Il n'est pas question de demeure en général. Il est question de leur propre demeure, la leur, celle que Dieu leur avait donnée. Il y a un endroit au ciel en chantier, un endroit merveilleux, un endroit où tous les promoteurs du monde rêveraient d'investir, un chantier merveilleux, un chantier où l'on entendra le dernier coup de marteau au moment de l'enlèvement. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il y a un chantier où notre maison se prépare. À l'instant où vous fermez les yeux pour le repos éternel, le dernier ange qui travaille à votre chantier se retire et tout est prêt. Une demeure. Dieu nous prépare une demeure. Peut-être nous avons abandonné la maison de notre père, de notre mère. Nous avons été éjectés de notre foyer. Peut-être nous venons des services sociaux. Nous n'avons pas connu la chaleur d'une maison et d'un foyer. Oh, vous qui êtes enfants, qui avez un foyer, une maison, savourez la puissance de la dignité de votre demeure. Ne regardez pas s'il y a une belle tapisserie, s'il y a une belle moquette. Regardez la dignité de la possession d'une demeure et d'un foyer où quelqu'un vous attend. Où quand vous rentrez, vous savez, quelqu'un vous attend dans cette maison. C'est la vôtre. C'est celle que Dieu vous a donnée. C'est votre demeure. Si vous n'abandonnez pas le Seigneur, votre demeure subsistera. Si vous abandonnez le Seigneur, votre demeure sera saccagée par les démons de l'enfer et peut-être vous perdrez tout, votre foyer, votre maison. Les choses terrestres sont le reflet des choses spirituelles. Les choses terrestres sont le reflet et le miroir de ce qui se passe dans le ciel. Une maison nous attend parce que Jésus nous prépare une maison. Et s'il nous prépare une maison au ciel, il veut aussi qu'ici-bas, nous ayons une demeure. Celui qui est en Christ trouvera sa demeure. Celui qui est en Christ trouvera la chaleur d'un foyer. Dieu ne peut pas abandonner. Impossible. Dites à ceux qui sont dans votre maison qui ne connaissent pas Jésus qu'il est temps qu'ils acceptent Jésus parce que les anges ont refusé la gloire. Ils se sont rebellés contre Dieu et ils ont perdu leur demeure au ciel. Si les anges ont perdu leur demeure au ciel, combien plus forte raison nous pouvons perdre la nôtre ici-bas. Leur propre demeure a été abandonnée. Quelle folie! Des anges ont entendu Satan prêcher la parole d'incrédulité. Ils ont entendu au loin un grand rassemblement. Satan est en train de se révolter contre Dieu. Il a été précipité loin de Dieu. Et il est parti avec les dons que Dieu lui avait laissés. Et quelque part dans les ténèbres, il prêche pour en rallier un plus grand nombre à sa cause. Il a lui-même perdu sa demeure. Et il veut que tous perdent leur demeure. N'écoutez pas ceux qui ont perdu leur demeure qui vous entraîneront dans la folie. Ne les écoutez pas. Écoutez ceux qui ont réussi avec Dieu. Voyez ceux qui ont réussi avec Dieu. Satan est parti quelque part dans un coin des ténèbres et il a commencé à appeler les démons un par un. Il a appelé les anges, il a dit « Venez ici ! » Il y a de l'incrédulité, il y a du pouvoir, nous allons nous rebeller contre Dieu. Nous allons séduire sa création, nous allons lui voler ce qu'il a. Et les anges, un à un, jusqu'au nombre de un tiers, a commencé à déserter sa propre demeure. La solitude, le vent, a commencé à pénétrer ses demeures et elles sont restées vides. Il y a une demeure pour nous au ciel. Je vous dis que Jésus a de l'espoir pour chacun d'entre nous. Je vous dis que Jésus croit dans chacun d'entre nous ici. Tous ceux qui entendent cette prédication, Jésus est en train de construire une maison. Est-ce que cette maison restera vide? Est-ce que cette maison restera vide? C'est là la question que Dieu vous pose. Laisserez-vous votre demeure éternelle? Braderez-vous votre demeure éternelle pour un peu de complicité avec Satan, pour jouir un peu de temps de la révolte? Laisserez-vous votre demeure éternelle au risque d'errer éternellement, enchaîné dans les ténèbres, comme nous dit le texte? Ma maison, papa, conserve-moi ma maison. Je veux un lieu pour me reposer. J'ai été si fatigué ici-bas. Si fatigué. Un lieu où il n'y aura pas besoin de faire le ménage. Un lieu où il n'y aura pas besoin de mettre de verrou. Un lieu où il n'y aura pas à craindre le voleur qui perce la demeure. Alors le texte poursuit. Mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu. Un feu temporaire ? Non. Un feu éternel. Je me réjouis de ce que les choses sont éternelles. Parce que, en choisissant le meilleur, je serai éternellement sauvé. Il n'y aura pas de remise en question. Nous nous remettons en question ici-bas, n'est-ce pas ? Mais au ciel, il n'y aura plus besoin de se remettre en question. Un feu éternel. Oh, garde-moi du feu éternel de la souffrance. Il y a un endroit de damnation où la mort subsiste. La mort n'est pas l'extinction d'une chose. La mort, c'est l'éloignement d'une chose. Je voudrais que nous comprenions bien ce que le mot « feu éternel » veut dire ici. Le mot « feu éternel » veut dire « mort éternelle », veut dire « souffrance éternelle ». La mort n'est pas un bouton que Dieu va tourner sur la position « off », fermé, terminé, il n'y a plus rien. Plus de conscience, plus d'existence, un néant, donc plus de souffrance. Non, la mort est un état qui demeure. La mort est une séparation au sens biblique, au sens de la pensée divine, au sens de la théologie de Dieu. La mort n'est pas l'extinction de la vie, mais la prolongation de la vie sans la présence de Dieu. Je veux vous amener au salut total. Que nul ne sorte de ce culte sans être totalement sauvé et libéré de ses craintes. Je veux vous sauver parce que c'est la mission que Dieu m'a confiée. Je ne suis pas celui qui sauve. Je ne peux pas vous sauver. Mais j'ai dans mon cœur la parole de l'Éternel qui va vous sauver. Alors je vais continuer dans ce raisonnement, dans cette logique implacable de la foi, car la foi a une logique. Il existe une logique de la foi. La logique de la foi est simple, équilibrée et sans tourment. J'explique ici, pour terminer, les trois versets. J'explique que le feu éternel est ici la condition de mort. Dès que l'homme a péché, il a été coupé de Dieu. C'est cela la mort. Il va mourir physiquement et il va mourir spirituellement. Je dirais que d'ailleurs, il mourra d'abord spirituellement et ensuite physiquement. Le péché, c'est la mort. Et la mort, ce n'est pas l'extinction de la vie, c'est la coupure d'avec Dieu. Il faut savoir une chose. Est-ce que nous pouvons aller voir ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort ? Je voudrais mettre en parallèle les trois versets de l'épître de Jude, versets 5, 6 et 7, les mettre directement en parallèle avec le récit de la crucifixion pour vous démontrer que la mort, c'est la coupure d'avec Dieu. Pour vous démontrer qu'il existe une différence entre l'angoisse et les tourments. Il existe une différence entre la souffrance et la perte de Dieu pour l'éternité, qui est un tourment. Angoisse et tourment. Je voudrais maintenant aller sur ce thème. Et comme je le disais, mettre en parallèle l'épître de Jude avec la crucifixion, je prendrai l'exemple de Matthieu, chapitre 26. Et au verset 37, Jésus a remporté la victoire pour nous. Il a combattu l'extrême combat de la foi. Aucune incrédulité n'a pénétré le cœur de Jésus lorsqu'il fut crucifié. S'il y avait eu ne serait-ce qu'une pensée incrédule, Jésus aurait fait naufrage. Nous allons découvrir que le feu éternel, c'est la condition où l'homme ou la créature pensante de Dieu est séparée d'avec Dieu. La mort de ce qui n'est pas pensant, c'est la destruction, c'est l'arrêt de l'existence. Mais ce que Dieu a créé pensant, avec un esprit qui résonne, je parle de la pensée qui est un esprit qui résonne, cela est éternel. Car Dieu ne détruit pas l'esprit. S'il peut détruire la matière, il ne détruit jamais l'esprit. Satan essaie de détruire l'esprit et tout ce qu'il peut faire, c'est d'entraîner dans la séparation d'avec Dieu. C'est son seul pouvoir. Satan ne peut pas détruire un esprit. Quand il détruit un esprit, il le sépare d'avec Dieu. C'est là son pouvoir. Et son pouvoir n'est pas si grand puisque nous avons aussi ce pouvoir. Considérez donc quelle est l'étendue de votre pouvoir. Vous pouvez faire mourir quelqu'un simplement en le séparant d'avec Dieu. Dès l'instant où il est séparé avec Dieu, c'est fini. C'est la mort qui règne. Et même s'il est bien vivant sur terre et qu'il est dans l'opulence, la mort est déjà en lui. Et quand il fermera les yeux, il sera séparé définitivement d'avec Dieu. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. La mort, c'est lorsque le tourment de cette séparation est sur quelqu'un. Nous allons comprendre comment Jésus a connu les angoisses et les tourments. Il a connu ce que c'est que d'approcher la mort et il a connu le sentiment de la mort elle-même. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu, chapitre 26, verset 37. Il est ici question de Jésus, le merveilleux message de la crucifixion. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse. Tristesse qui sera suivie de quoi ? Et des angoisses. L'angoisse s'additionne très souvent à la tristesse. La tristesse est un ferment pour cultiver l'angoisse. Ne soyons donc pas tristes et luttons contre la tristesse. La tristesse est déjà l'ambassadeur de la mort, mais ce n'est pas la mort. L'angoisse, c'est le deuxième agent de la mort qui vient après la tristesse, mais ce n'est toujours pas la mort. Vous pouvez être triste et angoissé, réjouissez-vous. Cela ne veut pas dire que vous êtes mort, spirituellement mort. Cela ne veut pas dire que vous avez perdu votre salut. Cela veut dire que la mort s'approche de vous pour vous réclamer. Chaque fois que nous rendons quelqu'un triste, nous favorisons le pouvoir de la mort. Nous voyons même que dans le monde, certains poussés dans la tristesse ressentent de terribles angoisses et qu'ils vont se tuer. La tristesse ne doit pas être un sentiment provoqué par le chrétien. Chrétien, chrétienne, écoutez-moi bien. Vous n'avez pas le droit de rendre triste quelqu'un, à moins que ce soit une tristesse de l'esprit qui le pousse à la conviction de péché pour la repentance. La tristesse va amener l'angoisse. Et il est curieux de voir ici que Jésus a vécu l'angoisse. L'angoisse est une attaque satanique. L'angoisse, ce n'est pas la mort. L'angoisse est un sentiment que nous devons différencier du tourment. Je peux ressentir des angoisses et cependant ne pas être tourmenté. Nous allons voir ce que Jésus a vécu dans le tourment, qui est différent. Voilà que donc le Seigneur s'avance et il commence à être triste. Triste pour les disciples, triste pour tous ceux qui n'ont pas accepté son message, triste parce que il y aura encore des gens incrédules qui ne comprendront pas sa mort et les angoisses. Satan commence à l'approcher. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Cela veut dire que mon âme n'est pas encore dans la mort, mais mon âme tend vers une tristesse qui m'amène à la mort. « Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il y a des angoisses nécessaires dans le combat de la foi, dans le combat de notre mission. Si Dieu nous donne des bienfaits sur terre, c'est parce qu'il a une mission qu'il veut accomplir avec nous. Nous devons donc comprendre que de servir le Seigneur et de suivre le Seigneur amènera fatalement des luttes. Et que dans ces luttes, nous pourrons vivre de la tristesse et des angoisses. Mais en aucun cas, Dieu ne voudra que nous vivions des tourments. C'est pourquoi je voudrais faire la différence entre ces deux expressions. Une angoisse est un conflit avec Satan directement. L'angoisse est ce que nous ressentons de l'odeur de la mort et du feu éternel. Jésus fut là. Il commence son œuvre de salut pour l'humanité. Il est prêt à verser son sang et il va subir des angoisses. Ce qui est normal. Je voudrais déculpabiliser le peuple de Dieu à cause de ce qu'il ressent. Ce que je ressens n'est pas toujours le reflet d'une situation perdue. Ce que je ressens peut être normal par rapport à ce que je suis en train de faire pour le Seigneur. Seul Jésus a subi un tourment parce qu'il a connu la mort à notre place. Mais nous ne devons pas être tourmentés. Un chrétien qui commence à être tourmenté doit être absolument délivré et ne peut pas rester dans cette condition. S'il est angoissé par rapport à l'œuvre de Dieu, s'il connaît des luttes, s'il connaît des tensions intérieures, cela est normal. Mais sachons aussi que Dieu nous en délivre. Voyons un peu plus loin pour comprendre. Matthieu 27, 46. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà ici la signature des tourments. Jésus, à ce moment-là, était dans les tourments. Il était séparé de Dieu. Nous pouvons subir des pressions, des angoisses. Dans la mesure où nous ne sommes pas séparés de Dieu, nous ne sommes absolument pas perdus. Il faut faire la différence entre les angoisses qui sont le produit d'une séparation d'avec Dieu et les angoisses qui sont le produit d'un service pour Dieu ou de la lutte dans la foi. Jésus va être séparé d'avec Dieu au moment précis où le péché de l'humanité sera sur lui, au moment précis où il entrera pour vivre la mort, le feu et la séparation d'avec le Créateur. C'est ce qui devait être notre châtiment. Notre châtiment devait être une séparation d'avec Dieu. Cette séparation est un tourment qui peut être éternel si on ne retrouve pas le chemin de la grâce. Nous devions être séparés d'avec Dieu. Jésus a porté notre condamnation, c'est-à-dire qu'il a été séparé, lui, d'avec Dieu à notre place. Il a subi le châtiment de la mort au sens de la pensée divine. Il a subi le châtiment de cette séparation. C'est à ce moment-là que, portant la souffrance des péchés, le Seigneur s'est détourné parce qu'il n'a pas pu voir toute cette laideur, tout le péché du monde sur son Fils. Tous les péchés, la condamnation, l'horreur étaient sur Jésus. C'est ainsi que Dieu s'est détourné. Et c'est à ce moment que nous devons comprendre que si Jésus est mort pour nous, c'est pour que nous n'ayons jamais de tourment. Le tourment est quelque chose qui perturbe l'âme, est quelque chose qui amène à la folie, est quelque chose qui ronge l'être intérieur. Et quand un chrétien est tourmenté, je peux vous assurer que c'est parce qu'il a perdu la présence de Dieu. C'est parce qu'il s'est coupé d'avec Dieu. Ne vous culpabilisez donc pas. L'angoisse n'est pas une séparation, c'est une épreuve. Et l'angoisse doit cesser au moment où nous avons accompli notre travail pour le Seigneur, au moment où nous avons vaincu l'incrédulité. L'incrédulité vient en nous angoissant. Dieu nous a dit quelque chose, nous a affirmé que nous allons réussir, nous a affirmé qu'il allait nous donner, mais l'incrédulité nous angoisse et nous doutons. Je ne crois plus, alors je m'angoisse. Dieu me demande de faire quelque chose, je n'y crois plus, donc j'ai des angoisses. Est-ce que cela veut dire que Jésus n'y croyait plus ? Non. Cela veut dire que l'incrédulité a essayé de pénétrer le cœur de Jésus et Jésus a ressenti un sentiment que nous ressentons tous. Lorsque l'incrédulité essaie de nous pénétrer, nous sommes angoissés. Ce n'est pas que nous avons encore renié Dieu ou que nous ne croyons pas définitivement à ce qu'il nous a dit, mais nous commençons à douter. Nous sommes à la frontière entre croire et ne plus croire. Et cela produit une angoisse. Et comme nous l'avons vu, cette angoisse nous amène jusqu'aux frontières de la mort. Au moment où nous ne nous ressaisissons pas, l'angoisse peut nous faire basculer dans le tourment. Revenons à Matthieu 27. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et nous savons que Jésus a posé cette question pour que nous comprenions son œuvre. Pourquoi fallait-il que Jésus soit abandonné ? Pour que nous ne soyons jamais, nous, abandonnés. Si vous pensez que Dieu vous a abandonné, vous êtes dans l'incrédulité. Dieu ne peut pas abandonner quelqu'un. Dieu n'abandonne jamais sa créature. Et si vous êtes angoissé parce que vous doutez, dites-vous que cette angoisse est une lutte normale pour votre foi. Alors ressaisissez-vous et croyez, car l'angoisse se dissipera. Et l'angoisse de Jésus s'est dissipée. Mais il a été jusqu'au bout pour entrer dans un sentiment dans lequel nous n'avons pas à rentrer. Le tourment. Quelqu'un de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Voilà une attitude que l'on pourrait expliquer dans le monde visible, qui est en fait une attitude d'un reflet spirituel. La coupure d'avec Dieu assèche la langue. La coupure d'avec Dieu nous assèche complètement. Si vous êtes coupé d'avec Dieu, votre langue ne produira plus rien et vous aurez soif de la vérité. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le diable agit sur deux plans. Le mensonge et le vol. Lorsque nous sommes dans les tourments séparés d'avec Dieu, notre langue se dessèche. Lorsque nous sommes dans les tourments, ceux qui sont autour de nous verront que nous sommes desséchés de l'intérieur. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'entreprise. Celui qui est angoissé peut encore entreprendre. Celui qui est tourmenté ne peut plus entreprendre. Si vous avez autour de vous des chrétiens tourmentés, qui ne peuvent plus entreprendre, il faut vraiment prier contre l'esprit de mort. Je ne plaisante pas, il est question d'esprit de mort. Il est question du goût de ce qui est éternel. La coupure d'avec Dieu, c'est les tourments. C'est quelque chose qui brûle à l'intérieur. L'angoisse nous déstabilise. Le tourment nous brûle comme un feu à l'intérieur. Si vous êtes tourmenté, courez vers le Seigneur et donnez-lui vite votre vie. Vous échapperez ainsi à la mort. Alors, nous pouvons regarder dans Luc, au chapitre 16, verset 23, ce qui est dit. L'histoire de Lazare, un homme qui est mort et qui se retrouve dans le séjour des morts, et un autre homme qui lui aussi est mort et se trouve dans le séjour des morts. Mais ils ne sont pas du même côté. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il est question donc de l'homme qui était riche et qui se retrouve dans les tourments. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Voilà donc ce qu'est le tourment, voilà donc ce qu'est la séparation d'avec Dieu, voilà donc ce qu'est la mort. L'incapacité de produire par ses paroles, l'incapacité de produire la vie par ses paroles, l'incapacité de parler, la soif et le dessèchement intérieur. S'il y a quelque chose de desséché à l'intérieur de ta vie, c'est l'effet de la mort que tu dois vaincre en acceptant Jésus et en acceptant le sang de Jésus. Pour nous qui sommes chrétiens, nous devons faire une grande différence entre ce qui est une attaque satanique et ce qui est une séparation d'avec Dieu. L'angoisse qu'a connue Jésus, au début, était une attaque satanique. Le tourment qu'il a connu ensuite avant de mourir était une séparation d'avec Dieu. Nous devons absolument faire la différence entre les deux choses. Trop de fois, nous avons enseigné les chrétiens en disant que ce n'est pas normal, l'angoisse, n'est-ce pas ? Je ne parle pas de dépression, c'est un autre sujet que je n'aborderai pas ici. Mais on a souvent dit que le chrétien qui subissait quelques angoisses était un chrétien qui n'était pas sur la bonne voie. Moi, je vous dis que nous devons faire la différence entre l'angoisse et le tourment, entre la séparation d'avec Dieu et l'attaque satanique. Jésus se prépare à l'œuvre de la croix. Satan l'angoisse et l'attaque, et l'attaque, et l'attaque. Pour le faire douter. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Si Dieu vous a demandé quelque chose, faites-le. Si vous êtes angoissé à l'idée de le faire, c'est bon signe. C'est que Dieu va être gagnant et que Satan va être perdant dans l'histoire. L'angoisse, c'est ce qui vous fait douter. C'est ce qui va amener le germe du doute. Je me sens angoissé, je me sens mal à l'aise, je me sens pas bien. J'ai peur, Seigneur, guide ma main, j'ai peur. Est-ce vraiment toi qui m'as dit de le faire ? Est-ce que je dois vraiment m'engager avec toi ? Est-ce que papa, ma maison, c'est ici l'église ? J'ai peur, je suis angoissé parce que je suis attaqué par Satan. Cette angoisse est normale. Cette angoisse sera vaincue. Nous l'avons compris. Comment est-ce que cette angoisse sera vaincue ? Par la prise de position dans la foi. J'avance ma foi, l'angoisse disparaît, la dépression disparaît, alléluia. J'avance ma foi, la dépression va cesser. Car la dépression est ce qui vient dans l'angoisse. On est angoissé et puis on finit parce que l'angoisse n'a pas été chassé, n'a pas été vaincu, nous sommes toujours dans l'incrédulité, donc nous tombons dans la dépression. Et si nous demeurons dans la dépression, nous serons amenés jusqu'au tourment. Et si nous demeurons dans le tourment, nous irons dans les flammes éternelles. Mais si nous acceptons Jésus, il n'y aura pas de tourment. Alléluia. Dieu me demande de prendre une position, je dois la prendre. Dieu ne plaisante pas. Le Seigneur n'est pas là pour plaisanter avec nous. Il nous demande de nous engager dans ce qu'il nous demande. Il nous dit qu'il faut y croire. Il faut aller dans la foi. Et vous verrez, faites-en l'expérience. Très certainement, beaucoup peut-être l'ont déjà faite. Alléluia. Quand nous sommes angoissés, nous prenons position pour le Seigneur, nous avançons la foi et l'angoisse disparaît. Parce que notre esprit est tranquillisé. L'angoisse, c'est l'âme qui ne peut supporter la volonté de Dieu au travers de notre esprit. L'angoisse, c'est un sentiment de l'âme. Nous sommes faits corps, âme et esprit. Il y a des choses de l'âme qui sont acceptées. Et il y a des choses que l'âme n'accepte pas parce que l'âme n'est pas entraînée. L'esprit est entraîné à la foi. L'esprit est pur et prêt à croire. L'esprit reçoit la volonté de Dieu. Dans votre esprit, vous recevez la pensée de Dieu, la volonté. Cela est parfait. Mais lorsque cela doit être exprimé, il faut que l'âme l'accepte. Et l'âme n'accepte pas toujours. Donc l'âme prend peur. L'âme est triste. L'âme s'angoisse. Et l'incrédulité essaie de pénétrer. Mais quand votre âme prend position et se raffermit, se fortifie, alors l'angoisse disparaît. Dieu est respectueux de qui nous sommes. Notre vécu, notre passé, toutes nos expériences sont emmagasinées dans le souvenir de notre âme. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que nous avions vécu ailleurs, autre part, autrement, à un autre endroit, à un autre temps, alors l'âme résiste. Parce que l'âme dit, mais moi j'ai vécu cela, voilà mon passé, voilà mon vécu. Donc, l'âme va résister. Seigneur, tu me demandes de faire quelque chose d'inhabituel. Mais si vous acceptez par la foi, vous vivrez de nouvelles expériences avec le Seigneur et vous vaincrez l'angoisse. L'angoisse peut disparaître si vite. Et j'aime. Au début que je servais le Seigneur, je faisais un test à mon âme. Quand Dieu me demandait quelque chose et que j'étais angoissé, je savais que ça venait de Dieu. Et le test, c'était cela. Y a-t-il une petite part de l'âme qui réagit? Est-ce que mon âme est en train de réagir avec une angoisse? Vous savez, c'est un peu comme un test. Vous piquez un peu l'âme comme cela. Et si l'âme réagit, c'est qu'il y a quelque chose de bon. Quand j'avais un peu ces angoisses, quand Dieu me demandait quelque chose, ce n'est pas des tourments. Nous faisons bien la différence. C'est une angoisse, un malaise, une incrédulité. Vais-je y arriver? Vais-je le faire? Est-ce que je ne me suis pas trompé finalement? Voilà que l'âme réagit et produit cet effet de l'angoisse. Et c'est à ce moment que nous disons « Oui Seigneur, mon âme est tentée à l'incrédulité, je suis un peu angoissé, alors je vais pratiquer la foi, je vais y croire et je vais m'engager avec toi. Et je vais le faire. Et la réussite est totale. Que Dieu soit loué pour notre sensibilité. »
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.